Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On fait le match 28e de la saison 28. On salue les auditeurs d'Eure-et-Loire, comme vous tous. Par ailleurs, qui êtes toujours aussi nombreux à nous écouter entre 18h30 et 20h, émission, vous le savez, 100% interactive à retrouver via l'application qui réunit tous les podcasts de l'antenne de RTL. Match de 17h, Dijon-Paris-Saint-Germain. Dans un instant, le stade Gaston-Gérard et le score était, sauf erreur, il y a un instant, de 2-0 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. 3-0 même, me signale-t-on. 3-0 pour le Paris Saint-Germain à Dijon. On y revient dans un instant. Match de 13h. Metz mène à Bordeaux. Ou Metz a battu Bordeaux à Bordeaux sur le score de 2-1.
Sinon, donc, le match était long.
Bonjour Sébastien Tarrant.
Moi ça va. Mais vous?
Ça va parfait.
Le match était en début d'après-midi.
Voilà un sommaire qui est joliment cassé. Merci Sébastien Tarrant. Alors avec moi ce soir, permettez-moi de saluer tout de même mademoiselle Cindy Colmenares.
Bonsoir à tous.
La voix ensoleillée dont fait le match. Bah, vous passerez à la fin finalement, Sébastien. Stéphane Powels, le plus français des Belges du ballon rond. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir, ou l'inverse.
Karim Nedjari, ou l'inverse. Toujours directeur éditorial sport à Webedia. Encore au micro RTL. C'est notre spécialiste des dossiers foot et médias. Mais dont c'est la dernière ce soir dont on fait le match. On en dira quand même quelques mots à la fin de l'émission. Bonsoir Karim.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et donc bonnet d'âne pour Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Karim, c'est pas une question de niveau.
C'est pas une question de niveau pour Karim.
Je vous dirai cela à la fin de l'émission.
Non, parce que je m'inquiétais.
Non, il n'y a pas d'inquiétude à voir. Au menu de cette émission, vous le savez, qui est filmée. Avec vos messages sur Twitter @RTLFoot, elle est relayée par Baptiste Durieux, qu'on salue. Baptiste, bonsoir ami.
Bonsoir tout le monde.
L'Olympique de Marseille débarque Jacques-Henri Hérault. Est-ce que c'est une révolution de palais ou un rafistolage, pour ne pas dire un petit tour de passe-passe, si vous voyez ce que je veux dire. Les supporters de foot sont-ils des vaches à lait ou des vaches sacrées? On s'appuiera et on en débattra avec les experts de Odoxa qui a réalisé le baromètre de la semaine sur ce sujet pour RTL et pour Winamax. Le Stade Rennais battu hier soir, c'était sur RTL, c'est son 6e match consécutif sans victoire. Cette équipe est-elle vilaine? Bon, département 35, département Ille-et-Vilaine, j'ai tenté le jeu de mots. Et les tirs au but, tout le reste de l'actualité foot, improvisé évidemment par des questions que vous allez, mademoiselles et messieurs, découvrir au tout dernier moment, dont la fameuse question Ligue 2, qui ravit évidemment Sébastien Tarrago. Vous connaissez mon slogan, la Ligue 2, c'est de mieux en mieux. Et dans cette séquence, les faibles sont éliminés au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on se dit à 18h34?
Allez l'OM, non?
C'est une pub, non?
Voilà. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. À tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match. Cindy Colmenares, Stéphane Powell, Sébastien Tarrago, Karim Nedjari et notre ami également Frédéric Joly en direct de Dijon PSG. Le PSG mène 3-0. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir tout le monde. Effectivement, un des Parisiens qui mènent, qui n'ont pas eu trop à forcer leur talent face à cette équipe de Dijon. Autant le dire qu'ils ne se sont pas vraiment mis dans le rouge pour obtenir ce score. Le premier but a été marqué par Keane à la 6e. Mbappé sur pénalty après une faute de Célina a permis d'inscrire le second but parisien. Et puis le même Mbappé, superbe frappe enroulée du pied gauche qui n'a laissé aucune chance à Ratchopi, alors que Sarabia aurait pu même inscrire un autre but parisien. Il a fallu une belle intervention, un beau plongeon de Ratchopi pour capter cette balle. Le PSG mène 3-0, il reste 11 minutes à jouer.
Alors évidemment, antenne ouverte Fred, mais il n'y a pas de suspense, je ne vois pas de quoi on pourrait débattre d'ailleurs, non, sur ce match les amis. Une actualité du PSG un peu flat cette semaine, en lisant ou en entendant par ailleurs Leonardo, le directeur sportif, j'ai cru comprendre que il pourrait y avoir une nouvelle politique qui se dessine avec 2-3 stars, pas plus, et surtout un centre de formation qu'il faudrait développer. Ouais. Donc un PSG peut-être un peu plus économe désormais.
C'est-à-dire que quand tu gagnes rien,
Stéphane Powell,
c'est-à-dire que quand tu gagnes rien pendant 3 ans de grands titres et que ça t'a coûté bonbon, tu te commences à te dire tiens, peut-être qu'on ferait des économies, c'est peut-être ça.
Ouais, enfin, il y a surtout une crise qui passe par là et qui touche aussi le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, comme il touche les grands clubs, le Real Madrid, le FC Barcelone, et peut-être qu'il y a effectivement cette volonté de de moins dépenser sur des joueurs moyens. On pense à des gens comme Tino Kerrer qui ont été achetés plus de 35 millions d'euros, qui ont des salaires extrêmement conséquents et dont on se dit que fondamentalement un club comme le Paris Saint-Germain devrait être capable de former ces joueurs-là en fait.
Vous avez ressortira l'interview, ressortira l'interview lorsque Lionel Messi va signer.
Ah ben voilà.
Donc c'est fait. Vous êtes au courant, Karim ?
Oui, normalement ça devrait.
C'est en ordre.
C'est en ordre.
Ah vous avez des infos.
Faut être sérieux. C'est une émission sérieuse. C'est une information, une intuition, une rumeur.
Non, mais très sérieusement, on sait très bien que le Qatar veut faire une équipe des Galactiques l'année de la Coupe du Monde au Qatar l'année prochaine. Et aujourd'hui, Lionel Messi ne restera pas à Barcelone, en plus avec un Barcelone qui ne jouera sans doute pas à la Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc combien de clubs peut se l'offrir ?
Pourquoi il ne jouera pas à la Coupe d'Europe, pardon ?
Non, la Ligue des Champions, il sait qu'il ne la gagnera pas.
Il ne la gagnera pas aujourd'hui. Il ne va pas la gagner avec Paris non plus.
Il peut la gagner avec Paris aussi.
Donc il y a deux clubs, on est d'accord, au monde, qui peuvent le s'offrir. City et le PSG. Et le PSG, grâce au Qatar, a sans doute une possibilité beaucoup plus intéressante de payer Messi sur plusieurs années, dans un rôle d'ambassadeur et tout. Donc Paris a quand même de bonnes chances.
En tout cas, ce n'est pas pour tout de suite.
Donc pas un PSG forcément plus économe cette saison ou la saison prochaine.
C'est pas pour tout de suite. Non, mais je rebondis sur les sujets, sur le Messi au PSG. Ça doit être les petits côtés avec ça. Paoli qui vous réveille tous ces émotions.
On va en parler dans un instant.
De voir Messi au PSG, mais non, je pense pas que ça arrivera là tout de suite. Mbappé a toujours de toute façon rêvé d'aller au Real Madrid, mais je pense que pour l'instant il va bien.
Si c'est pas tout de suite, c'est dans deux ans, il va être retraité, hein, ça va être compliqué.
Mais je parle de Mbappé moi.
Ah d'accord,
je
de Mbappé.
Bon, parlons de l'Olympique de Marseille si vous le voulez bien. L'Olympique de Marseille, l'actionnaire américain Frank McCourt a donc débarqué d'une certaine façon. Jacques-Henri Hérault, révolution de Palais, rafistolage. Est-ce que ce n'est pas plutôt un tour de passe-passe ? Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que Hérault n'est plus le président exécutif, mais il en reste pas moins au comité, non pas au comité des fêtes d'ailleurs, au conseil de surveillance. C'est pas la même chose. Au conseil de surveillance. Donc,
mais moi j'étais comme vous, je me suis posé la question hier. Et il se trouve quand même qu'il y a un but.
Le quatrième du PSG. Frédéric Joly, quatrième but du Paris Saint-Germain à l'extérieur à Dijon, c'est bien cela Fred ?
Exactement, tranquillement, sur corner, Danilo est venu placer sa tête, il est monté plus haut que tout le monde, on se demande d'ailleurs si les Dijonais ont sauté dans cette histoire. Résultat, le Paris Saint-Germain mène maintenant 4-0 sur la pelouse de Gaston Gérard.
Merci Frédéric Joly.
Mais depuis que Franck McCourt est président de l'Olympique de Marseille, enfin dirige l'Olympique de Marseille, est propriétaire, je vais y arriver, ce conseil de surveillance ne sert absolument à rien. Donc, a priori, c'est plutôt un sas de décompression qui a déjà servi d'ailleurs à d'autres avant Jacques-Henri Hérault.
Oui, il y a une petite différence, c'est que Jacques-Henri Hérault semblerait avoir également quelques affaires avec Franck McCourt.
Bien sûr, il est actionnaire du club.
Hein. Il est actionnaire du club au contraire de ceux qui composaient ce conseil de surveillance auparavant. Donc il ne va pas lâcher ses billes aussi facilement que cela. Parce que d'une certaine façon, ce ne serait pas aussi quand même encore le conseiller de Franck McCourt. Courte, mais
beaucoup reste.
Mais pas public, c'est ça. Cette petite musique, je l'entends depuis hier soir.
Oui, j'ai parlé ce matin avec des personnes qui sont proches de l'OM et effectivement, tout le monde se pose la question et tout le monde attend de voir qu'est-ce qui va se passer lorsque McCourt parlera et surtout Longoria aussi va parler parce que on dirait plus, ça ressemble comme à une mise au placard ou quelque chose pour l'apaisement des supporters. De toute façon, il fallait les faire, les contextes. Au bout d'un moment, on se demande pourquoi ça n'avait pas été fait avant et maintenant on arrive à la situation dans laquelle
on va être sérieux quand même. Je veux dire, c'est du mesmer là, c'est du foutage de gueule complet quoi. Ça veut dire que
mesmer, l'homme politique ou le magicien?
Le magicien, non, c'est pas Pierre Mesmer.
Non, c'est le magicien. Si vous voyez ce que je veux dire, mais attendez, on se fout vraiment de la gueule du monde. On va pas refaire toute l'histoire de l'OM cette année.
C'est un tour de passe-passe,
plus que ça, Sampaoli. C'est une espèce de Bielsa bis, quoi, pour essayer d'endormir tout le monde en disant on a même le profil, ça va.
Non, je crois pas ça. Moi, je suis pas d'accord. On ira après.
Donc j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu fait pour calmer les gens. Et puis alors, l'histoire de Longoria. Moi, je l'ai connu, il était scout. À l'époque, quand j'étais recruteur pour Monaco, il était scout.
Tout le monde a le droit de progresser.
Mais attendez, on peut progresser, mais à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Président, c'est un métier. D'abord, il n'y a pas que le sportif, ça, il sait certainement faire. Il y a de la gestion du patrimoine, il y a de la gestion du personnel, il y a de la gestion aussi. J'ai pas fini. Il y a de la gestion aussi des entreprises. C'est un vrai travail de président. Il y a 32 ans, c'est une farce. Moi, je te dis, le mettre dans 34. Un club comme le Paris Saint-Germain, 34. 34, ben même, 34. Même 30,
si je veux encore en deux.
Scout à Newcastle, à Huelva en Espagne,
oui,
Atalanta,
je l'ai connu quand à Huelva,
à la Juventus.
À la Juve,
il est monté en grade.
Mais attendez, on parle de président, hein,
oui,
oui, Stéphane.
Notre
président de la République a 40 ans.
Les amis, pour ceux qui nous écoutent, on rappelle les états de service quand même de Longoria. Donc scout dans les clubs que je viens de citer, puis directeur sportif à Valence. Et à cette époque-là, Valence a retrouvé la scène européenne, la Ligue des Champions, et a gagné une Coupe d'Espagne.
Christian, je ne dis pas que c'est qualité. Je l'ai rencontré à l'époque, c'est quelqu'un de qualité, qui était un bon scout, qui avait une bonne vision du football. Je vous parle du poste de président. Jean-Michel Aulas, vous voyez un petit peu ce que c'est comme président. Vous mettez un mec comme ça, de 34 ans, président de l'OM, qui est un club qui a des pétards tous les trois semaines. Il y a des pétards, il faut gérer ses supporters qui ont réussi là pour finir à faire ce tour de passe-passe. Mais c'est un scandale. Mettre un type comme ça, président, 34 ans, des dingues. Mais ce sont des dingues.
C'est pour ça, et je le montre à la caméra ou aux caméras dont fait le match, que regardez d'abord la une de la Provence ce matin, Exitero, et pour équilibrer, la une de la Marseillaise, grand ménage à l'OM. Et en dernière page de la Provence, Franck McCourt s'est payé une page de pub en s'adressant aux supporters, et à un moment donné, il faudrait que je retrouve la ligne, mais en tous les cas, il veut, remettre le football au cœur de l'Olympique de Marseille.
Donc
avec Longoria, c'est davantage au cœur, peut-être, qu'avec Héroux.
Oui, mais d'accord. Évidemment. Alors, là, je voulais juste revenir sur les problèmes avec Héroux, parce que je pense que ça n'a pas été compris. Les problèmes avec Héroux, déjà, c'est un peu la façon dont il était perçu. En France, vous savez, l'arrogance, c'est pas forcément ce qui plaît les plus. Donc, il a toujours été perçu, qu'il le soit ou
pourquoi
pas, comme quelqu'un
d'arrogant.
Comment ?
Il y a des endroits où ça plaît, l'arrogance ?
Peut-être dans d'autres endroits, mais en France, certainement
l'assurance,
pas.
L'assurance, pourquoi pas, l'arrogance ?
L'arrogance, non, mais surtout en France.
Il y a un peu la mode. D'être arrogant, c'est bien maintenant. Vous ne l'avez pas constaté,
non, non,
mais alors, pas forcément avec Héroux, mais avec d'autres.
Pas à Marseille, tu ne peux pas faire ça à Marseille. Donc, cette arrogance, déjà, elle a des plus. Et ensuite, au niveau de son CV, je vois que vous parlez du CV de Longoria, qui est, bon, pour l'instant, mais paraît beaucoup plus, en tout cas, à même d'exercer les rôles qu'un certain
Héroux. Mais là, on ne parle pas d'Héroux. On est en train de demander que les nouvelles personnes qui sont mises en place, est-ce que c'est cohérent ? C'est ça la question.
Non, mais c'est vrai que Longoria, c'est une pétaudière sur le plan sportif dès qu'il y a deux défaites qui se profilent à l'horizon consécutive, messieurs. Et il y a aussi madame aussi. Mais il faut, quand on est président à Marseille,
il n'y a pas que le terrain. Mais il y a la politique aussi.
Ce que je comprends, c'est à partir du moment où quelqu'un a une compétence, lui a une compétence pour connaître le jeu et le recrutement. C'est pas parce qu'on a cette compétence-là qu'on a une compétence pour gérer et d'être président. Donc demain, il va être président, donc il sera moins sur le terrain. Il va être moins avec les. Il va avoir d'autres choses à faire. Il va monter à la Ligue, s'occuper des droits, il va s'occuper des relations avec la mairie et tout. C'est pas là où forcément il a sa meilleure compétence. Il y a une erreur en France souvent, c'est souvent aussi pareil dans le milieu du journalisme. C'est pas parce que vous êtes un excellent reporter, sauf pour vous, Christian, et devenir ensuite un très bon directeur de rédaction.
On est complètement d'accord.
Sauf pour vous, Karim.
Voilà. Mais Karim, pour rebondir, es scout, je l'ai connu, on était scout ensemble, on a fait des matchs ensemble. Tu peux pas passer scout. Moi, j'étais directeur sportif dans un club, mais un poste de président, Marseille, gestion du politique. Mais enfin, j'hallucine, ce garçon est bien sympathique, il va devoir aller négocier.
Il va devoir aller négocier.
Mais enfin, à 34 ans, j'ai 52 ans, donc j'ai un tout petit peu de vécu. À 34 ans, on va lui demander de gérer avec la mairie de Marseille, gérer à la fédération et compagnie. C'est un
scandale. Mais pourquoi
Sébastien Tarago. Donc, après avoir fait le procès d'Héro, on fait le procès maintenant de Longoria.
Ça faisait longtemps, les deux, là. Ils s'entendent bien, tous les deux. Il y a un truc entre Stéphane et Cindy. C'est quand même.
Il y a un truc entre Stéphane.
Non, c'est absolument pas. Alors, non.
En tout cas, on n'est pas au courant.
Non.
Faites attention aux États-Unis, vous seriez en prison, Sébastien.
C'est toujours délicat de condamner les gens par avance, quand même. Ce que vous dites, ok, ça paraît évident, il est trop jeune, il n'a pas l'expérience, etc. Mais je pense que condamner les gens alors qu'ils n'ont pas encore occupé le poste, c'est un petit peu excessif. Après, il y a différentes manières d'occuper ce poste-là. Quelqu'un comme Pape Diouf, par exemple, il n'était pas passionné par les problèmes de RH, vous voyez. Donc vous pouvez aussi vous appuyer sur un bon directeur général, un excellent même directeur général qui gère toutes ces questions-là. Vous pouvez occuper ce poste de président de différentes manières. Et encore une fois, quelqu'un comme Pape Diouf était très sur le sportif. Et il a été, pour beaucoup de gens, l'un des meilleurs présidents de l'Olympique de Marseille depuis 20 ans. Donc, oui, il paraît jeune, oui, ça paraît baroque, mais ne condamnons pas totalement à l'avance.
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a un vrai côté manichéen. Parce que dans ce qu'il a dit, même machiavélique, quand il l'a dit, j'étais prêt pour devenir président. Il n'a pas attendu que Héroux soit parti trop loin. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait, et aujourd'hui il l'a calculé, Il a dit il y a 2-3 jours quand même que sa stratégie c'était de devenir un jour président.
Et vous savez comment il a commencé, Karim ? Quand il avait 17-18 ans, donc il n'était pas dans la scolarité, il était déjà proche d'un club et c'était un dingue d'internet et de tout ce qui était joueur. Et il s'est, moi je me rappelle avec lui, on était à la CAN des moins de 17 ans, il était avec tous les scouts, hein, nous étions là, et c'est un mec qui a, ça revient à ce que tu dis, tout est réfléchi, tout est calculé, il sait où il va, il a énormément d'ambition,
Donc finalement, il sera peut-être un bon président.
Je suis pas si sûr.
S'il a le côté stratège.
Moi, je vous mets pas une pièce, quoi.
J'étais
dirigeant de club, ça va être très compliqué quand même d'être président.
La publicité, on verra, on essaiera de fixer les objectifs, les possibilités donc de résultats avec le nouveau tandem. On parlera de Sampaoli également. Ouais. Donc c'est lui,
Sampaoli, justement, Longoria.
J'aimerais vous poser quand même la question de savoir si Hérault a été le pire président de l'Olympique de Marseille, parce que j'ai quand même d'autres noms, mais...
Vous avez une liste, hein, j'ai vu sur les réseaux sociaux, vous avez mis une sacrée liste.
Donc je vous soumettrai cette liste. On parlera donc de ce nouveau tandem, jusqu'à 19h et peut-être davantage. Après 19h, ce seront les supporters. Les supporters sont-ils des vaches à lait ou des vaches sacrées? Mais ce ne sera pas uniquement, d'ailleurs, les supporters de l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous du Kita Circus à Nantes, rappelez-vous de l'entraînement arrêté à l'AS Saint-Etienne. Et puis avec le résultat, à mon avis, ou plutôt la contre-performance de Bordeaux cet après-midi...
Ça va chauffer
du côté de Bordeaux. A tout de suite, publicité, si on fait le match, et nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
18h50, on fait le match avec le tandem, le duo. On n'en rajoute pas, Stéphane Poel, Cindy Colmenares.
On ne veut pas déranger.
De l'autre côté de la table, Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe, et Karim Nedjari. Et Baptiste Durieux également, pour tous vos messages à retrouver sur le compte @RTLFoot, Baptiste.
Beaucoup de messages, effectivement, c'est compliqué de faire de tri. Tony qui nous dit, si dans une semaine, Longoria devient maire de Marseille, ne vous affolez pas les gars, c'est tout à fait normal. Johan également, Longoria en 6 mois, il a viré Villas-Boas et Hérault. Si j'étais Macron et Castex, eh ben je ferais gaffe. Message d'Alexis, avec un peu de chance, on retrouvera Jacques en Hérault à la Fédération ou à la Ligue, comme Vincent Labrune. Rendez-vous dans 2 ou 3 ans pour l'histoire. Message évidemment ironique. Et puis Antoine qui nous dit, c'est une première étape ce qui se passe à Marseille, mais le chemin est encore très long. Donc des supporters qui sont pas naïfs.
Vous continuez, merci Baptiste, vous continuez de nous rejoindre donc sur ce compte @RTLFoot. L'Olympique de Marseille, l'actionnaire américain débarque Hérault, révolution de palais ou pistolage, pour ne pas dire tour de passe-passe. Vous avez tenté d'y répondre dans le premier quart d'heure du match, en tous les cas de l'émission. Est-ce que Jacques-Henri Hérault, pour vous, est le pire président de l'Olympique de Marseille? Alors, je connais la réponse de Sébastien Tarrago.
Alors bon, c'est quoi?
C'est oui.
Ben non.
Non?
Bon non, il y en a certains là, ils ont fait 6 mois.
Ça a été pas mal. Hein.
Je pense que ça a été pire.
Alors c'est la question que je posais sur mon compte Twitter et je me suis ramassé évidemment une volée de bois à verre. Mais si on parle d'Yves Marchand, ça n'a pas été extraordinaire.
Ah bah
celui que les Marseillais appelaient le Suisse.
Le lanceur de poids aussi.
Si on parle de... Où est-ce que j'ai mis cette petite liste là? Je ne voudrais pas dire de bêtises.
Vous n'allez pas bien, chef. Ouais.
Chico Lunghi.
Oui, bah très Italien bien. D'ailleurs, vous pourriez faire son CV.
Alors, mais en trois mois, on peut difficilement le condamner.
En trois mois, vous avez difficilement à faire pire.
Il ne sait déjà pas dire son nom.
Si vous me parlez de Christian Carlini.
Hein?
Christian,
aucun souvenir.
Début des années 80. Alors Carlini, lui, il fallait qu'il aille chercher de l'argent au Venezuela. Et des Corses qui étaient installés au Venezuela. Il se faisait fort de ramener des fonds. Finalement, les Corses au Venezuela n'existaient pas. Les fonds n'existaient pas également. Et à la fin de la saison, le club a été placé en liquidation judiciaire.
Mais est-ce qu'on a vu pire que les soucis qu'il y a eu à la Commandelli tout récemment, avec tous les mondes politiques qui s'en mêlent, parce qu'évidemment ça profite certains, ça fait même au sein du club, ça fait, c'est un moment en interne, ça s'est dit, les gens ils s'étaient un peu fatigués de la gestion des
héros. Ouais, tout mettre sur son dos,
être le pire.
À la fin des années 90, il y a des joueurs, ils se sont fait tellement secouer par les supporters qu'il a fallu qu'il y ait un coéquipier qui arrive et qui sorte un revolver. Alors, on va quand même pas dire que ce qui s'est passé à la Commanderie, c'est uniquement de la faute de Jacques-Henri Hérault. Faut être sérieux. C'est d'abord de la faute de supporters inconséquents et
Oui, non, moi je ne suis pas pour jeter tous les temps à la faute sur les méchants supporters. Non, mais si on arrive. Non, mais
c'était il y a 20 ans, pardon.
Non, mais allons plus loin. Non, mais alors là, je prends la parole. Allons plus loin. Non, mais allons plus loin. Parce que là, ce que tu dis, Tarago, est tout à fait vrai. Mais regarde, je t'ai mis une situation.
On est sûr qu'il n'y a rien entre Sébastien et
Sylvain. Non, on met une situation qui est très importante aussi, ce qui s'est passé avec l'épisode d'Andrés Villas-Boas. On sait, et ça, je l'ai appris tout récemment, au matin, Andrés Villas-Boas reçoit, passe un appel à Hello pour vraiment lui dire, ça faisait 2 mois qu'il voulait quitter, partir de l'OM. À chaque fois, il n'avait pas de réponse, il ne répondait pas, il ne parlait pas. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a les soucis qu'il y a, à la fin, il s'en va en pleine conférence des presses. Et il y a toutes ces histoires-là sont quand même assez inédites. Ce n'est pas la commanderie et les supporters, ce n'est pas l'histoire d'Andrés Villas-Boas, c'est un tout en fait.
Oui,
c'est tous les footballs et tous les clubs qui étaient en train d'impulser. Donc oui, il fallait un changement. Si doit... Et oui, je considère qu'il n'a pas été à la hauteur.
Si on doit parler du pire. Est-ce que c'est le pire au niveau
de l'histoire?
Pardon, Cindy. On va essayer de passer une phrase entière.
Karim Djuri.
Non, c'est le pire au niveau des résultats. Ils ont été en finale d'une Coupe d'Europe. Ils ont été en Ligue des Champions. Résultat, il n'y a pas vraiment, c'est pas catastrophique. Mais au niveau incompréhension du football et du tissu local, je pense qu'il est sur le podium. Ne pas comprendre ce que c'est que la ville de Marseille, ne pas comprendre ce que c'est qu'un supporter de l'OM, ne pas comprendre ce que c'est que le football avec des tirs qui comptent 2 points si on tire 30 mètres, proposer des tisanes aux journalistes et tout ça, c'est de ne pas comprendre tout ce tissu local. Je pense qu'il est sur le podium, peut-être médaille d'or. Mais au niveau des résultats, c'est pas le pire.
Alors, je vous ai fait la liste des présidents qui n'avaient pas permis à l'Olympique de Marseille quand même de tracer un sillon intéressant dans l'histoire du club. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Et là, ce qui s'est passé, c'est que d'une certaine façon, la Vox Populi a eu raison et a demandé le départ de Hérault. Mais ce n'est pas la première fois non plus. Est-ce que vous vous souvenez de Roussier? Est-ce que vous vous souvenez de Marchand aussi? De Boucher, Marchand. Christophe Boucher, Vincent Labrune également. La Vox Populi a eu raison à ce moment-là.
Mais il faut dire, je rejoins franchement Karim, et Sébastien, je pense vraiment c'est un club particulier, j'ai réinventé. Et donc être président dans ce club-là, il faut vraiment être high level, il parlait de Pape Diouf, des mecs qui ont compris qu'il y a le sportif, il y a le politique, il y a les supporters, il y a la fédé. Et si tu n'as pas toutes ces compétences, eh bien il y a un moment tu te mets des gens contre toi. Moi je suis d'accord sur Hérault, je pense qu'Hérault n'a pas été le top de chez top, mais on va pas lui charger. S'il y a des tarés qui sont allés faire le con à la commanderie, c'est quand même pas uniquement de sa faute. Il y a eu un ras-le-bol des supporters, mais je suis désolé, l'année passée, les mêmes supporters, quand André Villas-Boas faisait du bon travail, ils étaient quand même un petit peu moins excités. Et à ce moment-là, c'était Jairo qui était le président. Donc, je veux dire, et à un moment, c'est trop facile. Moi, je pense qu'il n'était pas à la hauteur, mais c'est trop facile de le charger sur tous les maux de l'Olympique de Marseille.
Alors, Pablo Longoria est désormais le nouveau président, et le nouvel entraîneur va débarquer également dans les prochains jours. Il s'agit de Jorge Sampaoli.
Jorge.
Bon, d'accord. Sampaoli, on va dire. Donc. Et là, pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque également à faire venir Sampaoli avec
oui
un effectif qui est ce qui est?
Oui et non.
Ma question, Cindy. Et malgré tout, avec un effectif qui ne va pas se bonifier jusqu'à la fin de la saison. Prise de risque ou pas?
Bah, oui et non. Là, dans les contextes actuels, disons que dans les stades, il n'y a pas de supporters. Hein? Mmh. Donc en fait c'est un entraîneur qui est connu pour être très excité, très passionné. Donc là avec un stade vide, il n'y a pas forcément des soucis. Ça va plaire d'un côté, dans le sens Sampaoli, sa façon de jouer est très portée vers l'attaque. Et il faut pas oublier que les slogans et les valeurs de l'équipe l'OM, c'est aller droit au but. Donc ça peut effectivement amener quelque chose, pas autant sur les résultats, mais l'héritier de Bielsa peut amener en tout cas quelque chose d'assez positif. Là, pour qu'on ne s'endorme pas, en tout cas face au match. C'est déjà pas mal.
C'est terminé à Dijon, Frédéric Joly.
Oui, c'est terminé. La victoire, large victoire du Paris Saint-Germain, 4-0 avec Keane pour l'ouverture du score à la 6e. Mbappé sur pénalty 32e. Le même Mbappé du pied gauche, cette fois-ci 50e. Et puis Danilo pour le 4e but à la 82e. La victoire était facile pour des Parisiens qui n'ont pas beaucoup forcé ce soir. 4-0.
Merci Frédéric Joly, décryptage, réaction à partir de 20h dans RTL Foot, bien évidemment avec toute l'équipe d'Eric Silvestro, Xavier Demers, Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin et Raymond Abou. Derrière 19h, on devait parler déjà des supporters, on va continuer de parler un peu de l'Olympique de Marseille, ouais, avec Sampaoli, ses objectifs, prise de risque ou pas, puis d'une certaine façon, parce que dans la question il n'y a pas une certaine forme de cosmétique également, je voudrais savoir si ce n'est pas une meilleure manière, en mettant Longoria à la présidence du club, en mettant Sampaoli, en se débarrassant
provisoirement de Héro de vendre le club très prochainement. Est-ce que finalement l'OM n'est pas à vendre? Réponse après 19h. Dans l'immédiat publicité, c'est On fait le match et les infos de 19h.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
La suite d'On fait le match avec Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, Karim Nedjari, directeur éditorial sport à Webedia pour quelques heures encore. Stéphane Powels,
quel suspense.
La star du Benelux, et Cindy Colmenares, la voix ensoleillée dont refait le match. On a parlé depuis 18h30 de l'Olympique de Marseille, de la mise à l'écart de Jacques-Henri Hérault, des nouvelles fonctions de Pablo Longoria, l'Espagnol, nouveau président de l'Olympique de Marseille. Sampaoli, nouvel entraîneur également à venir de l'Olympique de Marseille, c'est signé, on l'attend dans les prochains jours, tout comme d'ailleurs Franck McCourt, messieurs. Est-ce que c'est important la venue de Franck McCourt auprès des supporters marseillais? Il va devoir s'expliquer auprès de ses supporters, il va devoir dialoguer également avec le tissu économique et politique. Sébastien Tarago.
Enfin, s'expliquer devant les supporters, c'est quand même excessif, parce que c'est quand même lui le patron, c'est quand même lui qui met les sous, c'est quand même lui qui les perd pour l'instant. Mais en tout cas, il doit renouer un fil entre tous les gens que vous avez cités. Et on constate une chose, puisque vous l'avez rappelé, on ne peut pas diriger l'Olympique de Marseille en étant totalement coupé des supporters. C'est peut-être possible dans certains clubs. À Marseille, ce n'est pas possible, alors même que tous les matchs se disputent à huis clos. Donc c'est dire à quel point, sans doute, que Jacques-Henri Hérault n'aurait pas duré aussi longtemps s'il n'y avait pas eu de match à huis clos, parce que ça aurait été un calvaire au Vélodrome. Mais c'est très important, parce qu'à un moment, il faut reprendre la main. Pour lui, même si c'est pas des mots qu'on aime quand nous, on a envie de parler de football, prioritairement. Mais enfin, c'est un actif, l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, cet actif, il est quand même en grand danger, avec des pertes qui sont évaluées à 100 millions d'euros par an.
Justement, ma question, est-ce que c'est un actif à vendre, mademoiselle, messieurs?
En tout cas, c'est très compliqué pour les gens de l'OM. Et notamment Hugo Vrard, qui est Head of Business, on oublie un petit peu, mais c'était l'équivalent du Head of Football avec Longoria.
Chef des affaires.
Lui était là pour venir chercher de l'argent, et c'est très compliqué d'aller chercher des sponsors, des partenaires économiques, alors que depuis un an, ce club-là est aux prises avec des rumeurs. Parce que pour l'instant, il n'y a que des rumeurs. Je ne sais pas qui aurait envie aujourd'hui d'investir dans un club comme Marseille, qui est aussi instable et aussi difficile.
Je ne sais pas, mais
si tu veux acheter une maison et que sans cesse...
Oui, mais ton analyse...
Les locataires mettent le feu tous les deux minutes, c'est
analyse,
très compliqué.
Ton analyse, elle est bonne. C'est pas là où je voulais en venir. Ton analyse est bonne. On est en plein Covid, donc c'est aussi encore plus compliqué. Mais je pense quand même que l'OM est une marque. Je pense toujours convaincu que des grands investisseurs... C'est quand même plus sexy d'acheter l'OM qu'un autre club d'un autre pays qui n'a peut-être pas la même, je dirais, histoire. Parce qu'on reste sur cette histoire, même si ça fait longtemps, l'histoire tapis. Moi, je pense que l'OM est toujours un produit de qualité. Ça peut aller très vite dans le football. Hein. Oui. Un bon entraîneur, un bon recrutement, un projet 5-10 ans. Mais pour Michel Seydoux l'a montré à Lille.
Oui, mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup de rumeurs, beaucoup de fantasmes.
Ça fait beaucoup, oui.
Et à chaque fois qu'on parle de pays avec du pétrole et tout ça, mais est-ce qu'on a vu un grand industriel venir poser son argent?
Est-ce qu'il y en a encore, Karim, dans
est-ce
le
qu'il y en a encore? Mais
avant de donner la parole à Cindy Colmenares, donc je l'évoquais tout à l'heure, dernière page de La Provence, avec un encart, une page achetée par le sélectionneur Franck McCourt. Je m'engage et je l'affirme, l'OM n'est pas à vendre et il ne l'a jamais été, ni hier ni aujourd'hui.
Oui, alors ce n'est pas dans les tuyaux mais aujourd'hui.
Il ne dit pas demain. Hein. Mm. Et si on veut être dans la cohérence sémantique d'un communiqué ou d'un texte fait quand même par des agences de communication extrêmement professionnelles, et donc dans la cohérence un peu plus bas, moi il y a un truc qui me choque, c'est « Et je sais que ma famille veut rester avec vous pour des générations ».
C'est du foutage de gueule.
Donc là c'est un plan de com' complet. Il y a un problème quand même, au niveau de la cohérence.
Non, mais de toute façon, c'est une agence de communication qui a fait ça. Mais là, j'ai encore vérifié ce matin, parce qu'effectivement, il y a pas mal de rumeurs sur des ventes, etc. de l'OM. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais il ne faut pas oublier que tout se tourne manège, toutes ces choses qu'on voit des personnes qui se mettent en place, et plutôt à long terme, enfin, sauf pour Sampaoli, mais ça, on en viendra plus tard. Bah, c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que j'ai l'impression que tout est en train d'être mis, tout va nettoyer pour pouvoir plus tard vendre
c'est
dans des bonnes conditions.
C'est l'impression.
Mais pas, en tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Ouais, parce qu'à un moment, il faut quand même leur rendre grâce. Ça fait des mois et des mois, voire des années, que l'on dit que le club va être vendu. Pour l'instant, ils ne cessent de dire que c'est faux, et pour l'instant, il se trouve que c'est faux. Il y a même des banques quand même très sérieuses, dont on a dit qu'elles avaient été mandatées pour trouver un nouveau propriétaire, qui ont démenti aussi. à un moment, faut quand même croire un minimum les gens là dans des choses de
Chahi
business.
Ouais,
mais après non, mais un jour tous les gens qui disent que le club va être vendu, un jour ils auront raison.
Dans 10 ans.
Mais je vous rappelle qu'avec la famille Dreyfus, c'était aussi le cas.
Une semaine avant, le club n'était pas à vendre. Une semaine après, il était vendu.
Oui, oui. Mais ça faisait des années qu'on disait qu'il allait être vendu. Mais
est-ce qu'on est dans une opération de séduction? Oui, on est dans une opération de séduction avec Longoria qui a réussi un bon mercato. Sampaoli, qui incarne une certaine image du football, même si je me trompe, peut-être vous m'arrêterez, mais je crois qu'il n'est pas resté plus longtemps dans un club. Donc tout
et
ça.
Et il est parti toujours des façons, je me permets, un peu chaotiques de Séville. Enfin, il n'a pas toujours ses paroles.
Et McCourt ne peut pas faire une lettre, aidée sans doute par une très bonne maison de communication, autre que celle-ci, pour apaiser, pour pouvoir revenir et ouvrir un dialogue. Parce que de toute façon, si vous n'apaisez rien, là, vous n'avez aucune chance de redémarrer le club et aucune chance de le revendre un jour.
Il faut que la mariée soit la plus belle possible pour vendre le club. Alors effectivement, j'appuie le propos de Sébastien Tarrago. Un jour ou l'autre, le club sera à vendre et donc vendu. Quand on ne le sait pas, mais peut-être rapidement qu'on l'imagine.
Là, on est complètement dans de la séduction. Ça veut dire que, tout à l'heure, je l'ai dit en début d'émission, je vois que vous n'avez pas réagi. Je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai l'impression que Sampaoli, c'est l'effet Bielsa, quoi. On dit, on ramène un mec qui a plus ou moins le même profil, les supporters vont bien aimer, on met le petit jeune Longoria en disant, attention, grand talent, on écarte Héro parce que les supporters, ils n'en peuvent plus. J'ai l'impression que c'est pour... c'est des pansements, quoi. Moi, je ne suis pas si sûr que c'est une politique pour revendre. Hein. Je pense que c'est des pansements en disant, là, il y a le feu. Et alors, moi, ce qui me fait rire, excusez-moi, c'est quand McCourt, il vient t'expliquer qu'il va vivre à la Canebière, que maintenant, il adore Marseille, qu'il va être proche des gens et compagnie. Alors, peut-être, il va le faire combien de temps? Un mois? Deux semaines? Je veux dire, à un moment, un président, il doit être présent au club. Il doit gérer, surtout encore plus à Lille. Je me rappelle à l'époque Michel Seydoux au LOSC, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler. Il ne venait pas au club, il venait une fois par mois voir l'état des lieux, comment ça allait. Mais c'était Lille, quoi. Ce n'était pas une sulfateuse comme à Marseille.
Et le paradoxe,
président, il doit être là.
Pour vendre correctement et à un moment donné le club, c'est qu'il y ait un climat apaisé.
Et oui.
Sampaoli, vous me parlez de Sampaoli. Sampaoli a quand même une image.
Il faut des pétards partout.
Une réputation sulfureuse.
Mais avec des supporters, mais il n'y en a pas là, en l'occurrence, des supporters actuellement au stade.
Ils vont revenir avec ses propres dirigeants également. Je ne sais pas si vous avez entendu le reportage de notre correspondant en Argentine, diffusé ce matin, Georges Quirino. D'abord, il n'a pas très bonne presse en Argentine, dans son pays. Et partout où il est passé, il a eu quand même une relation extrêmement conflictuelle avec, non pas uniquement les supporters, mais avec les dirigeants.
Puis c'est très dur de venir en France. Parce que quand on ne connaît pas le tissu et le football français, on a l'impression que c'est facile, que c'est un championnat de deuxième zone. Les matchs sont tous âpres, toutes les équipes défendent. Et c'est très compliqué. À part Kovac, qui s'est mis là, mais tous les anciens, même Ancelotti, a eu du mal à petit à découvrir ce que c'est que le football français. Là, on se retrouve quand même avec un Longoria qui a une expérience limitée du football français et un Sampaoli qui ne connaît pas le football local français, hein, je parle.
Qui ne parle pas déjà, il faut quand même les souligner, qui ne parle pas aussi la langue, donc ça peut être compliqué au niveau de son intégration, mais je pense qu'on les mettrait à quelqu'un à côté. Mais il me semble que tu as dit à un moment... Oui, il me semble que tu as dit à un moment que la façon de jouer des clubs, en tout cas en France, c'est défensive, mais justement, Sampaoli est habitué, quand il était sélectionneur de l'équipe de l'Argentine, même si, je vous avoue, c'est pas le meilleur exemple, ça s'est pas très bien passé en 2018 et c'est tant mieux pour nous, pour la France, mais il était habitué à avoir des équipes défensives en face et justement lui, l'identité des jeux, parce que je pense pas qu'il s'agisse juste de la communication mais de vraiment mettre une vraie identité des jeux qui ressemble à celle des Marseille. Alors je me permets parce que vous aimez pas qu'on vous interrompe, mais vous interrompez quand même.
Donc en fait,
il va vers l'avant,
il faut donner le ballon, là on a l'impression que Ben Arfa est en train de
Il va vers l'avant, et donc du coup, ça devient une équipe à beaucoup plus défense, offensive.
Bon, en tout cas, tout est passionnant. L'aventure est passionnante. Ah bon?
Non, moi, ce truc-là, c'est plus. Ça me fait rire.
L'arrivée de Sampaoli, même si on peut avoir des doutes eu égard à son CV, c'est excitant quand même. Quoi qu'il en soit, le personnage est excitant. On verra ce que ça donne, évidemment. Est-ce que ce sera un four? Est-ce que ce sera une grande réussite? Franchement, je pense qu'on peut avoir des doutes, mais on s'en fiche. Ça, pour les observateurs, c'est fascinant de voir des personnages comme ça.
Et pour les supporters, est-ce que c'est rassurant? Ça, c'est une autre histoire.
J'entends Sébastien Tarago, je connais depuis de nombreuses années, qu'il trouve ça excitant. Sampaoli, c'est du bonheur. Ça
me fait 19h.
Qui n'a pas bien écouté.
Et 13 minutes. Bon, on va en rester là, les amis. Hein, mais on va parler des supporters. Donc, forcément, on va revenir un peu sur les supporters de l'Olympique de Marseille, mais pas seulement. Les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux.
Et notamment sur la vente de Marseille, Tristan qui nous dit Marseille, c'est une histoire, un public, un stade, des couleurs, des valeurs. Bref, c'est un produit alléchant. Pourtant, si j'étais investisseur, mais jamais je ne mets ne serait-ce qu'un centime dans ce club. Je préfère acheter Saint-Etienne ou Lens, les avantages de l'OM sans les inconvénients. Et Zachary également qui nous écrit dire que Marseille n'est pas à vendre. La meilleure manière de dire qu'il est à vendre, en fait, c'est le désir des supporters, certes, mais désolé, je ne connais pas de milliardaire au sang ciel et blanc qui fera de ce club un grand club. Ce sera un McCourt bis, ce sera pareil ou pire, tout simplement.
À suivre, en tous les cas, trois quarts d'heure sur l'Olympique de Marseille. On va essayer de faire 15 minutes sur les supporters avec cette question
de Marseille.
Les supporters.
C'est pas tant de Marseille.
De Marseille, oui, de Marseille aussi, mais de Nantes et des autres également. De
d'habitude,
Saint-Étienne.
On vous dit que vous ne parlez que du PSG. Vous avez vu que c'est
et
pas
ces
vrai.
Supporters sont-ils des vaches sacrées ou sont-ils des vaches à lait? Tiens. Un premier tour de table. Elle vous plaît cette question, Sébastien Tarago?
J'essaye de la comprendre, c'est pour ça que je suis
un peu absent. Sébastien Tarago.
Mais
au suivant, Thierry Medjari.
On constate une chose, c'est que cette crise sanitaire montre à quel point la présence des supporters dans les stades est capitale pour ce spectacle. C'est évident. Donc moi-même, étant fatigué par l'importance prise par les supporters parfois dans les clubs, parce que je trouve qu'ils ne restent pas à leur place, et quand je les entends dire que les clubs leur appartiennent, non, les clubs leur appartiennent pas, mais c'est évidemment capital, et donc c'est un élément à prendre en compte, et donc oui, c'est des vaches sacrées en quelque sorte.
Parfaitement compris la question. Vache à lait, il faut payer les abonnements, il faut payer le merchandising, et vous ne dites rien parce que c'est comme ça, et ou vaches sacrées, oui, ils ont le droit à la parole, à l'aune de ce qu'on voit actuellement à l'Olympique de Marseille.
Non, mais c'est vrai que depuis un certain temps, on les considère plus comme des clients que comme des supporters.
Comme des consommateurs.
Comme des consommateurs. Ouais, il faut les traire du début à la fin, pour prendre votre métaphore.
Oui, il a raison, Karim. Mais le problème, c'est que moi, ça m'agace un peu parce qu'on focalise absolument avec les supporters du foot et le Covid, mais les supporters de tout. Les mecs qui veulent voir le festival de musique sont aussi frustrés. Tout le monde est frustré. Mais le supporter de foot, il met ça encore plus haut parce qu'il dit « Ouais, mais nous, on met du pognon, on achète un abonnement, il faut nous respecter un peu plus. » Ouais, mais le mec qui met de l'argent pour aller voir un concert de musique, il faut le respecter aussi. Je trouve qu'il prend une part trop forte, trop puissante par rapport à son statut de supporter. Faut le respecter pour ce qu'il est, parce qu'il paye pour venir voir du spectacle, mais il n'a pas le droit de monter au créneau parce qu'il voit 4
mais
matchs.
Mais il fait partie du spectacle, Stéphane.
Il fait partie du spectacle, mais il ne peut pas revendiquer
non,
dès qu'il y a un petit couac, dès qu'il y a un petit couac, dire attention,
moi, je pense que c'est différent d'un concert, parce que je pense que quand tu perds un match, quand tu es supporter, tu es triste toute la semaine. Après un mauvais concert, je pense que tu n'es pas triste. Tu
c'est
vas écouter un disque
vrai,
et tout ça. Mais je pense qu'avant avant et après...
Après un mauvais concert.
Tu réécoutes la chanson et puis c'est tout. Mais, non, mais je pense que le football appartient à la vie complète, et c'est du 7 sur 7. C'est pas simplement que le samedi soir ou le dimanche après-midi, quoi.
Moi, j'avais vu un concert avec Véronique Sanson un jour, son
peur.
Guitariste, pendant une heure et demie, était en train de régler sa guitare. Et il a tourné autour de son truc. Mais
pas
le concert, c'est bien déroulé. Finalement, pas un spécialiste à ce point, il peut déceler quelque chose de particulier. Mais pendant une heure et demie, je n'écoutais plus Véronique Sanson, je ne regardais que le guitariste en train de bricoler sa guitare.
Expliquez-nous. Ça fait plaisir de vous raconter cette anecdote.
Voilà,
bien sûr. Mais vous n'avez pas engagé votre passion, votre âme dans ce guitariste.
Mais bien sûr que
non. Je rappelle que
Cindy Colmenares est française d'origine vénézuélienne. Vache sacrée ou...
Pour moi, c'est vache sacrée, clairement. Non, c'est vraiment une vache sacrée, parce que moi, je pense que les supporters ont une place importante. On l'a vu par rapport à Nantes, je trouvais leur supporter extraordinaire, c'était rigolo, et en même temps ils arrivaient vraiment à faire passer un message, et ça a fonctionné. Et voilà, Marseille, c'est peut-être pas pris de la même façon. J'applaudis pas tout ce qu'ils ont fait, les supporters, mais il n'y a pas que ceux qui ont fait des choses à la commanderie. Les supporters marseillais, il y en a énormément. Et je pense qu'ils ont bien fait les choses.
On reviendra d'ailleurs sur les supporters et sur les jugements qu'il y a eu cette semaine dans un instant. Je vais essayer de retrouver. Il y a eu quoi, 14 supporters après toi. Il y en a 12 de mémoire qui ont été relaxés. Deux compris, deux ou trois.
Un peu de sursis.
Et un ou trois mois à faire.
Mais avec des choses absolument incroyables. Hein, voilà.
Alors, ouais, le supporter alors, qui
s'y. Il y en a un qui a escaladé le portail de la commanderie avec des béquilles.
Ouais, non, mais... Il était blessé.
Il y en a un autre qui avait un fumigène dans la poche. Mais c'était
il avait les jambes cassées, quoi.
Il y en a un autre qui avait un fumigène dans la poche, mais c'était pour le mariage. Pour un mariage.
Ah bon,
un
mariage.
Il avait un revolver aussi pour un mariage. Pour un mariage. J'en connais quelques-uns des mariages.
Il y en a un autre qui est venu de l'est de la France en Blablacar. Motivé quand même, le gars.
Ouais. Non, mais ça veut dire que ça marche, Blablacar.
Et alors, la juge, elle. Et alors, la juge, elle lisait les comptes rendus des ouais. rapports de la police et était choquée par le slogan mouillez-vous, mouillez le maillot ou cassez-vous. C'est quand même pas des mots qu'on emploie dans une.
Ouais, elle était voilà. choquée.
Oula. Donc, ce procès était un peu surréaliste.
Oui, mais en même temps, quand on connaît les supporters, on a fait des déplacements. C'est les mêmes supporters qui traversent l'Europe entière pour être torse nu à Moscou pour chanter la gloire de l'OM.
Mais là, je parle de la commanderie, là, Karim.
Non, mais pour être supporter, il faut être dans un autre monde. Il faut être dans un univers qui t'apporte une certaine folie. Alors, ils escaladent des barrières, ils escaladent des grilles, mais ils vont aussi à l'autre bout du monde.
Mais est-ce que vous pensez. Alors, Karim et l'équipe, est-ce que vous ne pensez pas non plus.
L'équipe.
Mais l'équipe ici.
Je suis ravi de.
Mais c'est une équipe ici autour de cette table.
14 jugés, je relaxe. Je pense quand même. Coupé de 6 mois
qu'ils sont en action. Je voulais juste vous dire.
Après, on parle de Doxa.
Je voulais juste vous dire que je pense que ce Covid aussi. A permis, ou bien à cause du Covid, que les supporters ont passé encore un niveau supérieur. Moi, je pense que, à force d'être frustrés, de ne pas sortir, les couvre-feux et compagnie, cette histoire de l'OM les a excités encore un petit peu plus.
On peut les comprendre parce que nous aussi, on
est. Mais nous sommes d'accord, mais je pense que ça a amplifié leur colère et ça a permis à des mecs en béquille qui ont sauté au-dessus d'une.
Messieurs, madame, on va saluer Erwan Lestran, directeur d'études chez Odoxa. Bonsoir, Erwan.
Bonsoir à tous.
Avec un baromètre très intéressant, mais si vous pouvez, madame, le commenter également, au fur et à mesure qu'Erwan va nous donner ses résultats sur les supporters, la considération qu'on porte vis-à-vis de ces supporters et le possible retour également des supporters dans quelques semaines, peut-être, espérons-le, dans les tribunes des stades de football, mais pas uniquement de football. Alors, première question, dans le fonctionnement des clubs actuellement, on a la question que vous avez posée aux Français, aux amateurs de foot, diriez-vous que l'avis des supporters est trop ou pas assez pris en compte ? Quels sont les résultats, Erwan ?
Eh bien aujourd'hui, 52% des Français disent que l'avis des supporters est trop pris en compte dans le fonctionnement des clubs. C'est 9 points de plus qu'il y a 2 ans. Ça augmente aussi chez les amateurs. Et c'est vrai que ça reflète peut-être un fossé qui est apparu au grand jour dans certains clubs entre des directions de clubs qui sont contraints économiquement assez fortement et des supporters qui souhaitent de leur côté que leur équipe soit sportivement mais aussi culturellement conforme à leurs attentes et conforme à leur vision pour leur club de cœur.
Donc là, c'est quasiment du 50-50. Quoi.
C'est logique, extrêmement ça correspond partagés. Un peu au débat qu'on fait ce soir.
Erwan, quelles sont les vertus, les qualités ou les défauts que l'on porte à ses supporters ? Vous avez identifié un certain nombre de rubriques sur l'identité, la culture du club, sur le design, les couleurs des nouveaux maillots, le choix du président de club. Quel est l'avis des Français et des amateurs de football ?
Voilà, on s'est intéressé sujet par sujet à ceux sur lesquels les Français, les amateurs de football supposent que les supporters doivent être consultés. Et la hiérarchie est assez claire. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui ressort en premier lieu,
c'est
sur
intéressant.
Les supporters
écoutez,
doivent être consultés, c'est bien. L'identité et la culture du club. C'est-à-dire ce qui vraiment va structurer l'ADN du club. Et on peut faire l'hypothèse que sur ce point, c'est ce point sur lequel les supporters de l'OM ont peut-être l'impression de ne pas avoir été associés, qui doit être à l'origine des premiers désaccords entre la direction et les supporters. Alors que sur des points comme le choix du président du club, le choix de l'entraîneur, le recrutement et la vente de joueurs, les amateurs de foot jugent majoritairement que les supporters ne doivent pas être consultés pour prendre
des
décisions.
Mais il y a presque des considérations, j'allais dire, géopolitiques ou sociologiques, parce qu'à Marseille, c'est l'identité du club. Dans d'autres clubs, ce serait peut-être davantage notre mot à dire sur le président ou sur l'entraîneur, non ?
Ouais. Vous voyez, moi, je pense qu'il y a une maturité des supporters. Les supporters savent très bien que c'est pas eux qui vont nommer le président ni l'entraîneur. C'est vrai. Mais en revanche, quand ils voient qu'un maillot, la couleur d'un maillot est dévoyée, ça les rend dingues. Parce que je pense que c'est quelque chose là-dessus où ils ont envie d'être dans une communauté et de vivre ensemble.
Et ça ne change pas pour autant la vie des dirigeants qui ont changé de maillot en question. Hein.
Mais aussi Paris Saint-Germain, c'est hors catégorie, on est dans une autre philosophie. Mais la plupart des clubs aussi, je parle par exemple des entraîneurs des jeunes. Je sais qu'il y a des supporters qui souhaitent que ça soit souvent des anciens joueurs pour continuer à incarner la culture de club. Ça fait des points où ça peut gueuler. Quand par exemple, il y a des mecs qui viennent de nulle part et qui sont entraîneurs de jeunes à Marseille.
Marseille. Ça, non, ça, ils n'aiment pas. Ils veulent qu'on continue à perdurer l'amour du club et de la région.
Après, il y a un paradoxe quand même chez les supporters, que je comprends d'ailleurs, mais ils veulent conserver toute cette identité, ces identités, et c'est très bien. Mais en même temps, ils veulent des bonnes équipes sur le terrain. Et on est dans un monde totalement libéral, qui est devenu fou, où sans argent, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et donc, il faut bien essayer d'aller chercher des ressources et des revenus pour acheter des joueurs. Et moi, j'aimerais qu'un supporter me dise, ouais, moi, de toute façon, ce qui compte, c'est que j'ai une équipe dans laquelle je m'identifie. On gagne, on perd, c'est pas si grave que cela. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaye de faire du mieux possible. Là, je comprendrais le discours d'un supporter. Mais un supporter qui me dit « Ouh là là, faut pas qu'on touche à ça, faut pas qu'on touche à ci », et en même temps qui veut des joueurs à 40 ou 50 millions, je parle pour des clubs... moyen entre guillemets, et ben là c'est pas cohérent.
Le plus bel exemple c'est Lens, hein. Lens qui ne supporte pas, ce que dit Sébastien, d'avoir des mecs qui ne mouillent pas le maillot comme on peut le mouiller à Bollard, et ça ils peuvent être en colère, c'est ça, mais c'est parce que c'est une région particulière, c'est une région qui a souffert, on connaît la région de Lens et des mines et compagnie, et ils ne supportent pas. Moi j'ai vu des supporters fâchés parce qu'ils avaient des espèces de stars qui ne touchaient pas un ballon sur la rencontre.
Cindy Colmenares.
Non, pour moi l'identité c'est quelque chose d'assez important, je pense que c'est légitime d'essayer d'intéresser à ça, je pense que par exemple là on parlait de l'OM, ils l'ont bien compris et ils ciblent vraiment ça en essayant, je pense pas que ce soit de la com, mais vraiment de revenir à ce que c'était l'identité de l'OM, parce que de toute façon l'OM, Marseille, avant d'être Marseille, c'est foot en fait, c'est comme ça que c'est perçu à l'étranger, dans tous les pays à l'étranger, quand on parle foot en France, on pense maintenant évidemment PSG, Neymar, etc, mais on pensait surtout Marseille.
Oui, enfin, donc, en termes de popularité, pardonnez-moi, mais justement dans les derniers baromètres, quand on mesurait la popularité, Erwan Lestron a peut-être souvenir des résultats, la popularité revenait davantage depuis quelques années au Paris Saint-Germain.
C'est normal, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a les stars.
L'image des supporters de football, Erwan Lestron, directeur d'études pour Odoxa.
Eh bien, l'image des supporters de football, elle reste très contrastée. 55% des Français en ont une mauvaise opinion, 69% des amateurs de football en ont une bonne opinion. C'est stable en comparaison à ce qu'on a pu mesurer par le passé. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une image qui reste partagée entre le fait que les Français les considèrent aussi joyeux et indispensables au spectacle que capables de débordement.
Et puis alors la question d'actualité, je rappelle, ou je signale d'ailleurs que Roxana Maracineanu sera l'invitée de Jean-Michel Rascol dans On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France, demain soir entre 19h30 et 20h. Il sera évoqué notamment, et pas seulement, du souhait du retour des supporters dans les stades avant même la fin de la saison. Possible, pas possible? Qu'en pensent les Français et les amateurs de foot, Erwan?
Et bien alors les Français, quand bien même l'image des supporters est contrastée, ils savent l'importance du 12e homme. 65% des Français souhaitent que les supporters de football reviennent dans les stades avant la fin de la saison et ils penchent même pour une jauge plutôt élevée. Parmi ceux qui sont favorables, 18% seraient favorables à des matchs tests dans certains stades avec 4000 à 5000 personnes, comme ce que propose la ministre des Sports. 32%, c'est la part la plus importante, serait pour une jauge à 25%, un siège sur 4. Et 15% serait même pour une jauge supérieure, c'est ce que propose notamment Noël Le Graët, avec 30% de remplissage du Stade de France pour la réception de l'Ukraine le 24 mars.
Exactement, c'est la suggestion récente de Noël Le Graët avant même les élections. Merci beaucoup Erwan Lestron pour Odoxa. Sondage baromètre RTL Winamax. Je rappelle qu'une synthèse de ces résultats très intéressants vous sera proposée demain matin par Nicolas Georgerot dans les informations, le journal de 9h. A très bientôt, Erwan Lestrohan. Je pensais justement à la dernière proposition de Noël Le Graët sur France-Ukraine qui voudrait avoir une jauge d'environ. Alors, je ne sais plus si c'est 20% d'ailleurs.
30 000, je crois, non?
C'est 20%.
20% du Stade de France.
Oui,
20% du c'est Stade moins. De France.
Ouais. Ça, c'est souhaitable.
Non mais franchement, et quand on va en vacances au bord de la plage, on préfère qu'il pleuve plutôt, on préfère qu'il fasse beau plutôt qu'il pleuve.
Oui, merci. 20%
mais,
ou pas.
Mais non, mais attendons un peu. Le problème, c'est que on se rend bien compte que là, on est en train de peut-être traverser une nouvelle très grande crise sanitaire à nouveau là. Dans les jours qui viennent, il y a des départements, des villes qui sont, à l'heure où on se parle, en couvre-feu, en confinement, pardon. Peut-être que jeudi prochain, on va annoncer d'autres confinements le week-end dans d'autres villes. On voit bien que là, on est dans un moment très difficile qu'il va falloir passer. On ne sait pas comment on va passer ce moment en France, dans beaucoup de pays européens, il y a eu des confinements très stricts. Je suis pas sûr que là, tout de suite, ce soit le moment Ouais, parler de ça, franchement.
Je rejoins Sébastien, je trouve, et Dieu sait, on a tous envie d'aller au stade. Il y a une espèce d'indécence dans ce qu'on est en train de vivre avec ce virus. On ne sait pas ce qui nous passe. Nice est fermé, Dunkerque est fermé, enfin, je veux dire, confinement. Et on vient nous expliquer qu'il faudrait jouer les matchs. Alors, moi aussi, j'ai envie d'aller au stade, hein, comme tout le monde.
On n'explique pas, on pose les questions, non, cher Stéphane.
On pose la question,
les questions,
mais moi,
et on comprend la réaction.
Ce qui est bien, c'est d'anticiper éventuellement, pardon, Stéphane, et pour être prêt. Si on arrive à traverser cette vague qui s'annonce. Voilà. Et soyons prêts le moment où ce sera possible. Mais là, la question qu'on se pose, enfin en tout cas que moi, citoyen, je me pose, c'est est-ce que la semaine prochaine, on sera confiné le week-end ou pas. Voilà.
Mais de toute façon, on connaît la musique, on l'a vu déjà l'an dernier. L'été, on commence à nouveau à libérer. Après, nous confinons, on va encore nous relibérer à nouveau. Et donc, oui, pourquoi pas ouvrir avec une jauge un peu réduite, avec des personnes masquées et toutes les choses qu'il faut, des préventions. C'est tout à fait possible.
De toute façon, on va pas confiner des villes et dire aux gens d'aller au stade.
D'aller au stade, c'est incohérent.
Non, mais après, si tu écoutais aussi ce qu'on dit, en fait, j'étais en train de te dire après les vacances, en fait, parce que c'est ce qu'on fait habituellement.
Qu'est-ce qui se passe entre Sébastien Tarrago et Cindy Colmenares ce soir. 19h29. Je vais voir cela pendant la publicité.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite d'On refait le match. Encore 30 minutes de débat passionné, comme vous pouvez le constater, avec Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe, Karim Nedjari pour quelques heures encore, directeur éditorial sport de Webedia. Stéphane Powels pour le Benelux et la voix ensoleillée d'On refait le match, Cindy Colmenares. Et vous tous qui nous écoutez bien évidemment sur les réseaux sociaux, le compte @RTLFoot, vos messages relayés par Baptiste Durieux.
Et notamment sur les supporters, message de Corentin, les supporters sont des vaches à lait et avec eux les dirigeants font tout, de l'écrémé, du semi-écrémé, de l'entier et même du lait de soja et du lait de coco. Message d'Aurélien, ils sont des vaches sacrées parce que justement ils sont des vaches à lait, voilà la vérité. Message de Yann également, fidèle auditeur. De nos jours, certains clubs ne veulent plus de supporters ni d'ultra, mais juste comme en Angleterre, par exemple, des familles prêtes à dépenser le plus d'argent possible.
Et on passe à la Ligue 2, car la Ligue 2, de semaine en semaine, c'est de mieux en mieux, Baptiste.
Mieux en mieux, effectivement. Clermont, par exemple, qui mène 2-0 face à Valenciennes. Nancy, qui mène sur la pelouse de Châteauroux, 1-0. 1-0 également pour Niort, sur la pelouse de Grenoble, et 0-0 sur les autres pelouses. Je vous rappelle les affiches. Auxerre-Rodez, Caen, Paris FC, Dunkerque-Chambly, Pau, Le Havre et Sochaux-Guingamp. À noter que Toulouse s'est imposé 3-0 face à Amiens et que Troyes, le leader, s'est imposé face à l'AC Ajaccio 1-0.
Et puisqu'on rappelle les résultats en Ligue 1, je vous rappelle que le PSG est allé gagner à Dijon. C'était le match de 17h par 4-0. Et que Metz, match de 13h, s'est imposé à Bordeaux sur le score de 2-1. On va parler d'ailleurs dans un instant des Girondins de Bordeaux, car plus ça va, moins ça va aux Girondins de Bordeaux, comme au Stade Rennais.
Je voulais rebondir juste sur la Ligue 2 un tout petit peu, oui. Juste sur un truc. Oui. Ben, on parle de management depuis tout à l'heure, des nouvelles directions et compagnie. Ben, à Toulouse, par exemple, il y a eu un grand nettoyage après ce qui s'est passé. Et il y a Comolli qui est arrivé, il a mis des gens à côté de lui, il a fait du recrutement. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Moi, j'y étais il y a 2 semaines dans la ville de Toulouse. Les supporters de Toulouse se disent, on ne connaît pas, et il y a quelque chose qui se passe. On sent que maintenant, il y a de la rigueur du travail. Comme quoi, un dirigeant ou deux, trois peuvent changer. Parce qu'ils étaient à l'agonie quand même. Hein. Rappelez-vous, l'année passée, dans quel état ils étaient.
Mais ça a toujours été un club sain. C'est-à-dire un club qui n'a pas beaucoup de déficits. Un club qui travaillait bien avec les jeunes.
Oui, bon centre de formation.
Donc il y avait quand même quelque chose, une impulsion à redonner. Mais ouais, il y avait un terrain.
Ça, mais un peu triste aussi.
Ouais. Un peu triste.
Mais Comolli est un type d'expérience. Là, on parlait tout à l'heure du poste de Longoria. Damien Comolli, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les clubs, qui a eu des fonctions dans des clubs en France, en Angleterre.
Pas eu des réussites partout.
Peut-être, mais ça fait de l'expérience. Et ça permet peut-être de ne plus en faire des erreurs. Et je pense que pour Toulouse, en Ligue 2, je pense qu'il faut remonter.
Pas de réussite partout en Angleterre, pas de réussite à Saint-Etienne.
Oui, dans un contexte des Verts très compliqué. Ouais, mais... Non, d'accord, mais c'est quand même de l'expérience. Alors, je sais. Ouais. Est-ce que vous connaissez des dirigeants qui ont réussi partout ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que votre constat est juste, exact, mais parce que Toulouse, actuellement, enchaîne une très très bonne série. J'ai envie de dire affaire à suivre. Quoi.
On verra en fin de saison, oui. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe.
Alors. Sébastien Tarrago, vous n'avez rien à dire sur la Ligue 2 ?
Sur la Ligue 2, si, moi, je peux vous parler de Clermont très longtemps.
Bon, vous aurez. Non.
Et Clermont qui gagne et qui va peut-être monter cette année, ouais. Enfin.
Vous aurez votre question Ligue 2 tout à l'heure dans les tirs.
Mais vous me demandez si je peux parler de Ligue 2, je peux vous parler de Clermont. Ou de Chambly aussi.
Le Stade Rennais, non. En Ligue 2, tout de même. Mais là, ça va quand même pas bien, le Stade Rennais. Hein. Battu hier soir par l'équipe de Nice à domicile, 2-1. Sixième match sans victoire. Troisième défaite consécutive. Calendrier que Rennes va mettre à jour mercredi, juste avant d'ailleurs. Le match PSG-Barcelone, ce sera à Marseille. Que se passe-t-il au Stade Rennais, les amis ?
Il y a plein de choses qui m'ont étonné hier. Déjà, Estéphane qui sort les seuls joueurs qui étaient vraiment au top hier, c'était vraiment Thierry. Ça, j'ai eu vraiment du mal à les comprendre. On voit effectivement qu'ils ont plutôt essayé d'aller à fond du côté droit contre Rennes avec un Camavinga qui est en méforme. Il n'est clairement pas au niveau d'aujourd'hui. Doku qui est quand même jaune, et sans parler de la faute de Todibo sur lui qui aurait mérité un carton rouge. Je pense que c'est plus quelque chose qui a à voir avec une méforme des joueurs et aussi un peu de confiance plutôt que vraiment les clubs où, comme tout le monde est en train de remettre en question Julien Stéphane, je ne sais pas pourquoi c'est la mode maintenant, enfin c'est comme d'habitude. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose, il y a des hauts et des bas.
Non, je suis vraiment pas d'accord.
Il plante le décor. C'est davantage les joueurs que ce qui se passe en coulisses. En coulisses, les choses ne sont pas très saines actuellement.
Vraiment pas d'accord.
Stéphane Powels.
Vraiment pas d'accord dans le sens où je pense que c'est malheureusement un fin de cycle. Je pense qu'ils ont très bien travaillé. Je pense qu'il est arrivé une nouvelle personne au recrutement. D'ailleurs, on a vu hier, c'est très symbolique dans le vestiaire qui s'en prend aux arbitres Florian Maurice. On s'envoie une espèce de tension. On sent que c'est palpable. Il y a eu des transferts qui ont coûté très cher, Doku notamment. Et j'ai l'impression que Stéphane, et c'est pas pour ça que ça devient un mauvais entraîneur. Je pense qu'il y a quelque chose qui est cassé. Et je pense qu'il va falloir. Dans les clubs, c'est comme ça. Il y a des bonnes périodes et des moins bonnes périodes. Il va falloir changer quelque chose.
Il y a un bon effectif au Stade Rennais.
Il y a un bon effectif, mais j'ai l'impression que tout est aplani à Rennes. C'est-à-dire que tout le monde s'entend bien. En coulisses, Holweg, Maurice et Stéphane, tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Mais
il
n'y
a pas d'électricité. Et donc, il n'y a pas d'électricité, le courant ne passe pas, si vous voulez, entre ces...
Je n'ai pas le sentiment que Stéphane fasse l'unanimité.
Non, mais j'avais l'impression que quand il y avait d'un côté l'étang,
ça pétait,
et qu'en fait, ils se tiraient l'un et l'autre vers le haut.
Excellente analyse.
Et là, j'ai l'impression que tout le monde est aplani, que personne n'ose pousser de coup de gueule. Ouais. Et sur le terrain, c'est pareil. Cette équipe-là ressemble à ses dirigeants. Tout est propre, tout est bien peigné. Et ça manque de révolte, ça manque de leader sur le terrain.
Une belle endormie, le Stade Rennais, Stéphane Tarrago.
C'est assez classique à Rennes aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on demande trop, parfois. Il faut aussi accepter qu'il y ait des moments difficiles. À la fin, il n'y en a qu'un qui gagne. À la fin, il n'y en a que trois qui vont en Ligue des Champions. Mais non, mais Rennes, est-ce que Rennes, fondamentalement, peut jouer la Ligue des Champions tous les ans? Non, je crois pas. Je crois pas. Qu'il y ait eu des erreurs, oui, bien sûr.
Non, mais là, on parle du championnat de France, Sébastien.
Mais oui, mais ils sont
et dans. On parle de la manière également.
Mais ils sont. Alors, la manière, elle est très mauvaise depuis le début de saison. Ça, vous avez tout à fait raison. Là, ils sont dans le creux de la vague. C'est une certitude. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On licencie l'entraîneur tout de suite? On vire tout le monde? C'est pas possible. En fait, il faut qu'on revienne à la raison.
Il faut chercher des explications.
Mais oui, mais c'est la vie. C'est le foot. Je veux dire, vous avez connu Giroud pendant 40 ans à Auxerre. Parfois, il était dans le trou.
Juste un parallèle.
Comparer Auxerre.
Non, mais regardez.
Et Rennes, en termes de population, en termes de bassin, de supporters, etc., n'est pas. La comparaison n'est pas raison.
Mais Christian, je parle de football.
Christian, Sébastien, regarde le parallèle avec le LOSC. C'est un club que je connais un peu. Il y a un moment, ils ont été, rappelle-toi, au début de Lopez, complètement dans le trou. Ils ont fait des changements. Galtier est arrivé, il a créé une dynamique. Alors maintenant, on voit, je reviens à ce que dit Karim, tu sens que cette équipe de... Il n'y a pas de révolte à Rennes. Là, il y en a à Lille maintenant. Mais c'est possible que dans un an, à Lille, il n'y en ait plus. Mais et tu vas retomber dans la morosité.
Stéphane, Galtier, je veux pas être précis, mais il y a un an et demi, on disait que c'était la fin. On disait qu'il allait partir.
C'était compliqué.
Et oui. Et aujourd'hui il a ramené Lille en Ligue des Champions.
Ouais, mais tu m'admettras que
on m'explique que c'est le meilleur entraîneur français.
Non, Sébastien, c'est pas ça que je veux te dire.
Mais moi, je dis pas que c'est le meilleur entraîneur français. Mais à l'époque, c'était pas le plus.
Sébastien, c'est pas ça que je veux te dire. Je veux te dire ce que dit Karim. C'est que t'as l'impression que maintenant, et Stéphane, il est là depuis quelques années. Maintenant, il a fait du bon boulot.
Ça fait deux ans.
Ils ont été en Coupe d'Europe. T'as l'impression que maintenant, tout est beau, tout est gentil, c'est le pays des bisounours. Même lui, dans ses interviews, je l'ai vu hier, monsieur Stéphane, il dit, bon, et je le comprends, ouais, on n'a pas vu que des mauvaises choses, pas de bol, Caramba encore raté. Tu sens qu'il n'y a pas...
Mais on doit rejoindre sur l'électricité. Je vous rejoins sur l'électricité, c'est vrai que de temps en temps, il faut faire quelque chose. Mais ça, c'est à eux de s'en rendre compte et d'agir en conséquence. Et s'ils n'agissent pas en conséquence, alors ok, on pourra éventuellement... parler de changement,
personne.
Si vous avez parlé
de changement,
oh,
non,
un petit peu,
non, pas du tout. Franchement,
vous avez dit ce qui est vrai, que Julien Stéphane était remis en cause. Oui. Et vous avez raison, c'est une vérité. Mmh. Mais on peut aussi le regretter. Moi, je ne supportais pas la mode quand on disait que Julien Stéphan était un génie du football. Ça, je trouvais ça fou. Et c'était il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, à l'inverse,
faut pas le découper,
dire qu'il est nul et qu'il a perdu pied, mais non. Ça n'a pas de sens.
On n'a pas dit qu'il était nul, on a dit qu'il
mais en revanche, je suis d'accord, vous avez raison, il faudrait mettre un petit coup dans la fourmilière.
Non, je continue à penser que c'est vraiment individuel. Quand on a par exemple un Ansonsi qui devrait venir aider un peu ou essayer d'orienter mieux les jeux et aider des joueurs comme Kamavinga qui est en méforme, mais qui a du talent, hein, parce qu'on a aussi essayé de tomber dessus sur les Stéphane, sur Kamavinga. Enfin, de toute façon, quand ça ne va pas, on essaye toujours de trouver une tête des Turcs, donc voilà. Mais moi, je pense clairement que cette équipe, c'est juste un match contre Nice qu'il ne faut pas l'oublier, a été très très bon. Il a fait les bons changements au bon moment, l'entraîneur. Ils ont quand même réussi à trouver la faille qui s'est trouvée à droite, il n'y a pas de doute, malheureusement. Et voilà, ils ont sous-exploité ses côtés.
Nice a donc trouvé la faille, 2-1. Montpellier a trouvé la faille, 2-1. Saint-Étienne a trouvé la faille, à Rennes, 2-0. Lens n'a pas trouvé la faille, mais a quand même tenu en échec Rennes 0-0. Rennes, tenu en échec à domicile par Lorient, 1-0. Et Lille, à Rennes, avait trouvé la faille par 1-0. La dernière victoire du Stade Rennais remonte au 17 janvier, victoire de Rennes à Brest 2-1.
Mais ils ont fait des erreurs, oui. Mais encore une fois, l'été dernier, enfin en tout cas en octobre, on faisait un bilan du mercato en disant « Ah, franchement, ils ont été forts ». Bon. Il se trouve qu'ils n'ont pas été aussi forts que cela et qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs notamment avec le poste de gardien de but, par exemple. Et ils ont acheté beaucoup trop cher.
Tu peux faire toute la colonne vertébrale comme
ça.
Oui,
il y a eu des erreurs.
Trop cher Doku,
et donc, il y a eu des fautes de recrutement. C'est une certitude et tu les payes aujourd'hui. C'est logique. Mais je pense que, encore une fois, il faut laisser passer cette vague du côté de Rennes et de continuer à travailler. Et s'ils sont intelligents, ils vont bien voir quelles erreurs ils ont commises. C'est s'ils n'ont pas l'intelligence de voir les erreurs qu'ils ont commises, alors là, on peut changer.
Non, mais Christian, je vais revenir sur ce qu'il dit.
Trou, hein.
Parce qu'on nous dit que c'est des individualités des joueurs. Excusez-moi, permettez-moi de dire que j'ai travaillé dans un vestiaire de Ligue 1 et donc j'ai vu aussi la fin d'un cycle à Lodzik pour voir arriver Puel. Il y a un moment, il y a un essoufflement. C'est pas pour ça que l'entraîneur est mauvais, c'est pas pour ça que les joueurs sont mauvais. C'est qu'à un moment, ça va plus.
D'accord.
Je pense qu'il y a un ressort qui est cassé.
Je pense pas que les joueurs aient lâché Julien Stéphane. Juste pour lui répondre.
J'ai pas dit lâché.
Non, mais personne ne dit qu'ils ont
été lâchés.
Mais par exemple, il y a des choix affectifs qu'ils n'osent pas faire. C'est-à-dire qu'en défense centrale, il y a Oliveira qui n'est plus visiblement au même niveau, mais je pense qu'à par exemple Hilton à Montpellier, ils ont dit bon ben on va faire autrement, on va le mettre sur le côté. Oliveira, il est capitaine, il est important dans le vestiaire, il est important dans la relation avec le capitaine, mais en ce moment il n'est pas au niveau. Mais le problème c'est qu'il y a personne d'autre dans l'axe. De la même manière pour Kamavinga, tout le monde sait que c'est un super potentiel, mais on peut pas faire porter les ambitions d'un club comme Rennes sur un gamin qui a 18 ans,
alors,
qui aura des trous d'air forcément.
Et là, Julien Stéphan, là, il a une responsabilité dans la gestion de Kamavinga parce que à un moment, Kamavinga, il a trop joué. L'année dernière, il a beaucoup trop joué et il était tellement fort que, eh ben, c'est humain. L'entraîneur a voulu absolument le titulariser à chaque fois et aujourd'hui, il le paye.
Oui, ça et son entourage. Sereinement, mais tout doucement.
Mais
on commence à pointer les responsabilités. La colonne vertébrale tout à l'heure.
Évidemment.
La gestion de Kamavinga.
Il n'y a pas de plan B.
Non, mais Kamavinga, c'est pas pour te contredire parce que ça fait partie des éléments.
Quand même.
C'est pas que ça. Kamavinga, c'est quand même.
Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et Sébastien.
Kamavinga, c'est quand même un joueur qui a été un peu courtisé par le Real Madrid, était intéressé. Joueur qui se retrouve du coup sur les devants de la scène. J'ai l'impression qu'on est en train de voir la même situation qu'avec Mbappé, sauf que c'est les joueurs les gèrent de façon différente. C'est-à-dire que ça y est, il est en train d'avoir une période de méforme, on tombe tout sur Kamavinga.
Okay. Mais personne tombe sur Kamavinga.
Alors,
il dit qu'il joue trop.
Il
n'attaque pas Kamavinga. C'est l'entraîneur qui ne le fait pas respirer.
Non, mais alors, t'es aveugle, tu n'entends pas les gens. Tout le monde est actuellement en train de tomber sur Julien Stéphane. Sur Julien Stéphane et sur Kamavinga.
Il faut rester calme, on parle que Kamavinga.
Alors vous allez me tenir le même argumentaire, vous tous hein, et vous toutes, avec les Girondins de Bordeaux. Soyons patients.
Là, c'est le bordel.
Ah non, là, j'ai pas
suivi. Attendez. Vous avez suivi les Girondins de Bordeaux depuis quelques années.
D'accord.
Alors, on peut pas dire quand même qu'il y ait eu les mêmes résultats du côté de Bordeaux que du côté de Rennes au cours des dernières années.
On est bien d'accord.
D'accord. Donc là, la patience et la gestion du club dans sa globalité, on peut quand même la remettre en cause plus facilement du côté de Bordeaux que du côté de Rennes.
Alors que se passe-t-il au Girondins de Bordeaux ?
Fin de contrat, la plupart vous connaissez toute l'histoire. Il y a des joueurs qui sont plusieurs en fin de contrat. Ben Arfa a tiré sur 6-7 matchs, l'équipe avec son talent, mais maintenant il retombe un petit peu dans le creux. Cette équipe, il n'y a pas d'âme. On en revient dans l'âme. Il y a un bordel sans nom dans le vestiaire, tout le monde le sait. Il n'y a pas d'âme. En fait, ces clubs de Bordeaux, là aussi, c'est terrible. Moi, je parle beaucoup avec des supporters sur les réseaux de Bordeaux. Ils ne se retrouvent plus dans ce club, quoi.
Ça fait un moment,
justement. Ouais, mais là, justement, ça fait longtemps. Mais c'est de pire en pire, Sébastien. Ça veut dire que Ben Arfa leur a donné une petite étincelle, toute petite, et puis elle est déjà vite retombée. Puis alors, il y a des joueurs dans cette équipe, excusez-moi, quoi, mais ils s'en foutent royalement. Ça.
Non, autant à Marseille, on arrive à voir à peu près qui sont un peu les responsables.
Oui. Voilà. Là, non.
Là, ce qui est terrible pour un supporter bordelais, c'est que c'est quelque chose de flou. Un fonds de pension qui est venu parce qu'il y a des droits audiovisuel qui devait tomber autour d'un milliard, qui s'est dit on va se faire une petite culbute rapidement, puis là ils se rendent compte que finalement l'argent ne viendra pas, le club est à vendre, on a l'impression que plus personne ne dirige ce club, on ne sait pas sur qui taper. Et pour un supporter,
d'ailleurs, qui est le patron du club ? Non, mais vraiment.
Qui est le patron du club ?
On ne sait pas, vous savez, vous, Christian ?
Sur le plan technique, ça reste encore Jean-Louis Gasset, j'imagine.
Non, mais le président.
Ça, oui.
Qui est le président du club de Bordeaux ?
Non, c'est Frédéric Longuepée, quand même, tout le monde, vous le savez.
C'est l'ancien.
Mais vous arrivez à dire.
Mais parce que vous êtes un dirigeant, un journaliste de qualité, Sébastien.
Moi, j'ai déjà interviewé, mais.
Mais les gens ne savent pas, Sébastien. Quand on dit ça avec Karim, mais si, ça veut dire que ce n'est pas représentatif, ce club, on ne sait plus qui le dirige.
Il n'est pas bordelais, il ressent pas quelque chose, il dégage pas quelque chose.
Il faut être bordelais, alors, donc il faut être marseillais pour dire.
Non, mais on s'en sort. Je pense qu'il faut quand même avoir. Il faut être proche du métier, quoi. Quelque chose, il faut ressentir quelque chose pour un club. Sinon, c'est très difficile.
Ça, c'est une bonne question à poser dans un prochain On refait le match. Faut-il être proche du métier pour faire un bon président de club?
Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Il ne faut jamais s'éloigner
proche
de son
métier. Donc,
proche du métier, du football.
Christian, il ne faut jamais s'éloigner de son métier. C'est important. Ça.
Non, mais Longuepée connaît plutôt le football, non ? Il connaît le football,
mais après, on transcrit ça au football. Je pense que quand vous êtes président d'un club, il faut avoir quand même quelque chose, une fibre pour ce club-là. Sinon, c'est très, très compliqué.
Mais alors là, moi, je suis d'accord avec toi, mais alors ça va à l'inverse de tout ce qui se passe dans le football aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez notamment tous ces directeurs généraux,
mais c'est peut-être le mal
ces présidents,
c'est peut-être ça aussi.
Les temps, par exemple, Olivier Létang, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais dont on ne peut pas taxer de ne pas connaître le football. Il a fait Reims, il a fait Paris, il a fait Rennes, il a fait Lille.
Non mais Sébastien, s'il y a des techniciens comme lui qui viennent apporter leur savoir, c'est bien, mais il faut que quand même quelque chose, comme en Allemagne, comme en Angleterre,
en Espagne,
mais quelque chose qui incarne comme le club, quelque part, qui transmette un héritage, une âme. Sinon, c'est désincarné et on ne sait plus vers
que des inconnus. C'est intéressant ce que dit Sébastien parce que je réfléchissais à haute voix hier et j'entendais, je ne sais plus où, je lisais quelque chose à propos de l'ENA qui fabrique toujours la machine à fabriquer pour l'administration et qui sont parfois un peu déconnectés de la réalité. Et je pensais, alors là je vais me faire des ennemis sans doute, mais pourtant ils forment des gens de qualité, mais vous savez l'université économique de Limoges qui forme maintenant des directeurs sportifs qui ne sont pas...
Des managers.
Qui ne sont pas d'ailleurs tous issus, loin de là, du monde du football, ou en tout cas qui n'ont pas pratiqué, qui n'ont pas été anciens joueurs. Il y a des anciens joueurs, mais pas que. Zidane est passé d'ailleurs.
Mais aussi, ces gens-là sont tous passés par là.
Il faut être coopté.
Il faut être coopté ?
Non, mais j'exagère, mais à peine.
Il faut être coopté.
Franchement, c'est devenu un système un peu curieux.
Il y a une formation, je me disais, il y a une formation là, de nouveaux managers pour le sport en général et football en particulier, et avec des gens qui ne sont pas issus.
Mais ils ont basculé. Au début, c'était fait que pour les anciens joueurs, pour avoir vraiment une vraie formation de manager. Je me rappelle au début, au tout début de la formation, je travaillais au LOSC, Dré aussi faisait la formation. Oui. Je me rappelle bien que Pierre faisait. Oui. Mais maintenant, c'est changé. Maintenant, c'est une espèce de école commerciale, de sportif. Donc, on ne sait plus vraiment les mecs qui sortent de là. Est-ce que c'est vraiment fait pour être patron dans un club ?
Le coup de gueule de Laurent Koscielny n'a pas porté ses fruits. C'était cette semaine conférence de presse.
Il est allé.
Il va falloir nettoyer le vestiaire à la fin de la saison.
Mais il a raison,
Koscielny. C'est pas forcément étonnant de sa part, parce que lui, il a vécu en Angleterre. Et il a vraiment l'esprit club. Quand vous êtes d'Arsenal, c'est que il y a quelque chose. Quand vous arrivez en Angleterre, la première chose qu'on vous demande, c'est pas si vous votez à droite ou à gauche, c'est de quel club vous supportez.
On est d'accord, Karim, mais je ne doute pas un instant de l'investissement, de l'expérience et surtout pas du talent de Laurent Koscielny. Mais je pose une question volontairement provocatrice. Est-ce que sur le terrain et depuis le début de la saison, il donne lui-même l'exemple ?
Est-ce qu'il est
sur la performance ?
On peut pas dire qu'il ne donne pas l'exemple, mais en revanche, il n'est pas bien meilleur que les autres. Ça, c'est une certitude.
Et avec un salaire quand même qui fait grincer les dents.
Bien sûr, un contrat long.
Ça, c'est du populisme.
Mais vous m'avez parlé vous-même du vestiaire tout à l'heure. Ça commençait à grincer. Oui, Ben Arfa, ça fait grincer dans le vestiaire.
Mais
est-ce que vous avez vu l'arrivée nonchalante, l'entrée de Ben Arfa remplaçant
scandaleux
cet après-midi ?
Ah non, ça m'a gonflé.
Qui semblait pas du tout concerné.
Non, il y en a rien à battre. Mais c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Il y a plein de joueur en fin de contrat. Moi, Koscielny, je le défends un peu parce que je pense que Koscielny, c'est quand même un mec qui a un passé, une expérience. Il est connu quand même pour être un leader. Alors, ok, il a un bon salaire. Je pense que ça doit le gonfler. Quand il voit les mecs, la moitié du vestiaire qui n'a pas envie, qui traîne les pieds, je pense qu'il est sincère.
Moi,
je
pense... Il y a eu aussi des erreurs que, quand Ben Arfa est arrivé en disant aux autres, bon, les autres, vous allez tous courir et donner le ballon à Ben Arfa qui va faire la différence.
Ouais, quelle connerie aussi.
C'est un point de vue ballon.
Qui a dit ça?
Gassé.
Il
n'a
pas dit comme ça.
Ah si, c'est comme ça qu'il a dit.
On va donner le ballon à Ben Arfa qui va nous faire gagner. C'est une erreur.
Il a dû dire que Ben Arfa sera le dépositaire du jeu.
Non, c'est très rare. Il a été très clair.
Ah bon?
Il a même un jour, il a enguirlandé, je ne sais plus quel joueur, c'était Otavio, je ne sais plus, un joueur qui rabrouait justement Ben Arfa qui n'avait pas fait l'effort défensif. Et il s'est fait engueuler par son coach parce que justement, lui-même engueulait Ben Arfa. Non, il a été très clair, c'était très surprenant. Et ça a marché pendant 5, 6, 7 matchs. Hein.
Je veux bien vous croire, mais ça m'avait un peu échappé. Quelle heure est-il? 19h et bientôt 50 minutes. Les 10 dernières minutes d'On fait le match. On va tourner une page de publicité et ensuite les tirs au but ou les faibles.
Et la Ligue 2, c'est déjà fini.
Les faibles s'éliminent au fur et à mesure. La séance de tirs au but avec des questions sur l'actualité du foot, mais qui n'ont pas été évidemment communiquées. Aux chroniqueurs qui sont autour de cette table. La publicité, et on parlera de Ligue 2 également, les scores à la mi-temps avec Baptiste Durieux. Peut-être une salve de messages également sur les réseaux sociaux. Mais d'abord la publicité, c'est parti.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Les tirs au but. Dans cette séquence, les plus faibles sont éliminés au fur et à mesure, bien évidemment.
Ça va vite aujourd'hui, non?
Il faut attendre, vous trouvez?
Ah bah, 52 déjà.
L'heure tourne.
Oh, merci. Tour. Franchement, c'est une belle réflexion. Merci. Les gens sont heureux là.
Et vous savez qu'il n'y a plus de match de Ligue 1 le samedi, mais il y a encore du football et jusqu'à 23h.
Ouais.
Avec la bande.
Alors la Ligue 2, j'ai tout essayé pour vous passionner, pour vous fidéliser, pour vous intéresser, pour vérifier un peu également quand même vos connaissances. J'ai vraiment les questions les plus simples. Le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2, vous vous rendez compte? Impossible de répondre à cette question. Le leader du championnat de France de Ligue 2, impossible de répondre à cette question. Samedi dernier, vous n'étiez pas là Sébastien. Le président de Guingamp, personne pour répondre à cette question. Alors là je fais très 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 simple, mais attention, vous attendez le coup de sifflet.
Ça y est, on a Google.
Vous attendez le coup de sifflet. Google ne vous servira à rien du tout cette fois-ci. Attention. Quel événement médiatique important pour le championnat de France de Ligue 2 qui aura lieu mardi prochain à l'occasion de la 28e journée? Vous savez que mardi, il y aura une journée. C'est la 28e, coup de sifflet. Qui s'empare du ballon? Personne.
C'est quoi? C'est le nombre de matchs qu'Auxerre a fait
événement médiatique très important.
Champion d'automne.
Pour vous intéresser à la Ligue 2.
Champion d'automne. Il va falloir se dépêcher pour la phase retour.
Quelques matchs retour.
Événement médiatique. Non, mais... Donc, ne parlez pas de sport. Événement médiatique.
C'est des rencontres entre deux clubs?
Non. Pour vous intéresser à la Ligue 2.
En télévision, en prime time, en...
Vous brûlez.
Il va y avoir un multiplex
sur une...
Alors ça, il y a un multiplex tous les samedis. Et
en télévision. Ah si, télévision. Ils offrent en clair les matchs, non c'est pas
non,
ça
Non.
Sur une grande chaîne nationale?
Mais non, mais pas du tout. Ça reste sur Bein, bien évidemment, la chaîne de la Ligue 2.
Ouais.
Et ce sera dans un multiplex à 10 matchs. Et ce sera...
Tous les matchs gratuits,
en clair.
Mais non plus à 19h, mais à 20h.
Ah oui, merci beaucoup. Waouh, c'est cadeau, ça.
C'est une information très importante parce que, exceptionnellement, cette journée aura lieu à 20h le mardi, mais ensuite, tous les samedis, ce sera à 20h.
Oui, non, mais je sais, mais ça c'est...
Il n'y a plus de Ligue 1 le samedi, mais il y a de la Ligue 2 à 20h.
Mais c'est la chaîne qui a demandé cela, Christian.
C'est pour plus de notoriété, de visibilité.
Oui.
Ils
y ont pensé avant la Ligue, visiblement.
C'est pas mal comme idée, je trouve.
Oui,
non
oui.
Enfin, bon,
ah, ça va tout changer. Ça va tout changer.
Ça va changer ma vie. Spécialiste des affaires médias ici sur RTL.
19h-20h, ça m'avait échappé le 20h.
Allez, Metz 5e, Lens 6e.
Avec le changement d'heure, ça restera toujours à 20h.
Toujours à 20h. Metz 5e, Lens 6e au classement provisoire du championnat de France de Ligue 1. Vous êtes évidemment heureux de cette bonne nouvelle, heureux ou finalement réservé?
Poels. Je dis un mot. Faut pas lever le doigt là, Stéphane. Le principe, c'est t'y vas.
Ouais,
tu vois, c'est ce que vous faites pendant toute l'émission. Là, vous pouvez y aller.
Fais pas ta Cindy, toi.
Alors. Pourquoi tu lui fais des compliments aussi?
Heureux, parce que je sais que certains disent ouais, c'est tellement le championnat est faible. Et moi, quand je vois les promus qui jouent avec le cœur, comme le fait Metz, comme le fait Lens, ben moi, ça me rend heureux de voir aussi, en plus, deux clubs historiques de France qui arrivent à titiller. Voilà, moi, je suis content de cela.
Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Car samedi dernier, à la sortie du studio, Samuel Duhamel m'a interpellé, notre correspondant foot dans le Nord. Il me dit il faut quand même parler désormais du Racing Club de Lens.
Il a raison.
Il a complètement raison.
Sauf que là,
mais surtout qu'ils viennent de très loin. Voilà un club qui a souffert, qui a aussi un nouvel investisseur, qui ont pris un entraîneur qui est cohérent, qui correspond au club. Hein, cet entraîneur à Lens fait du bon travail. Moi, je trouve ça très sympa. Mais
ça prouve aussi que les entraîneurs servent. Parce que parfois, on me dit qu'un entraîneur ne sert à rien, il suffit d'avoir des bons joueurs. Que ce soit Franck Haes à Lens ou Antonetti, qui a joué aujourd'hui quand même avec 4 titulaires en moins, mais qui arrive à produire du jeu et à faire du jeu spectaculaire et avoir des résultats, les deux hommes, il faut les féliciter.
Mais aussi, les deux entraîneurs correspondent au club.
J'ai une très bonne question.
Je trouve qu'en rapport à la philosophie, Hans correspond complètement.
Tire au but extrêmement sulfureux, explosif. Fabien Galthié, sélectionneur du 15 de France, dans le collimateur de tous les observateurs du ministère des Sports, il a percé la bulle sanitaire pour aller voir jouer son fils à Jean Bouin, qui joue à Colomiers, pour faire 3 footings et peut-être pour d'autres raisons encore plus mystérieuses. N'allons pas plus loin. Didier Deschamps, dans le même cas, aurait-il été contraint à la démission ?
Didier Deschamps n'aurait jamais fait ça.
Mais s'il l'avait fait ?
Non, c'est impossible. C'est pour ça qu'il est Didier Deschamps. Il est tellement dans la rigueur, il est tellement dans tout ce qu'il peut faire.
Oui, alors vous comprenez le sens de la question. Si ça avait été un entraîneur ou un sélectionneur de football, et non pas de rugby. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, avec plus médiatiquement, plus exposé. Oui.
En fait, ça dépend. Ça dépend de qui il est. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se faisaient à l'époque. À l'époque, par exemple, de Laurent Blanc. On reprochait à Laurent Blanc de ne pas vivre à Paris. Vous voyez, des choses graves. On reprochait à Laurent Blanc d'aller faire des mises au vert à Enghien. Parce que ça coûtait de l'argent à la fédération. Aujourd'hui, sous Didier Deschamps fait des mises au vert à Enghien, ça ne pose de problème à personne, et il vit du côté de Monaco, et ça ne pose de problème à personne. Donc ça dépend un petit peu du climat. Là, c'est sûr que Fabien Galthié bénéficie de ses résultats sportifs récents et d'un travail qui a été considérable. Donc ça dépend vraiment du contexte. Mais vous avez bien sûr raison de souligner que quand c'est du foot, en général, ça fait plus de bruit. Et le comportement de Fabien Galthié s'est avéré, n'a pas été en cohérence avec les engagements qu'il avait pris. Et c'est évidemment un énorme problème, parce que là, ça dépasse le cadre du sport.
Vous avez été parfait, Sébastien Tarrago. Ça dépasse le cadre du sport, en effet. Alors, j'aurais pu vous poser une question sur Thierry Henry, qui rentre en Europe. J'aurais pu vous poser une question sur Olivier Giroud et son magnifique retourné. Sur Lille, qui est absolument incroyable, mais qui a été battu et qui était éliminé, mais à lire vraiment les commentaires, les comptes rendus de match, a été un Lille absolument extraordinaire. Allez comprendre quelque chose. On en reparlera un peu plus tard. C'était la dernière dont fait le match pour Karim Nedjari. Vous nous quittez, Karim.
Je vous quitte, oui.
Vous êtes appelé à d'autres fonctions.
Dans une autre radio. Et je voulais souligner.
Concurrente et néanmoins amie.
Amie. Je voulais souligner en tout cas votre fair play, Christian, vous et RTL, pour m'avoir invité à cette dernière émission, alors que j'irais dans une radio concurrente, mais je voulais dire qu'au moins, ça prouvait une chose, c'est qu'on est confrères.
Enfin, concurrente, mais qui reste quand même à quelques encablures derrière, hein, du point de vue de son âge. Concurrente,
mais il y a encore du boulot, cher Karim. Et Karim me disait avant l'émission, plus pour longtemps.
Plus pour longtemps, puisque je vous annonce que vous allez venir avec moi, je pense.
C'est une information ?
Je vous vais proposer après l'émission. Bon. Non, mais merci à RTL, en tout cas, qui est une très belle maison. Et moi, ça fait 20 ans que je viens ici dans ces émissions-là avec Sacomano et vous êtes en indigne successeur.
C'est gentil, c'est flatteur. Merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup Karim Nedjari et bonne chance à vous pour vos nouvelles fonctions. Merci Karim, merci Sébastien.
Merci à vous.
Merci Cindy, merci Stéphane. Merci à Baptiste pour ses messages. Merci à toute l'équipe de réalisation à 20h RTL Foot, 20h, 23h. Très bonne soirée à l'écoute de RTL et à samedi prochain. Ciao, ciao.
RTL, on refait le match.